Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous en direct jusqu'à 19h50 avec toute l'équipe. Bonsoir à tous les quatre.
Bonsoir, ma bête.
En attendant le retour de Mathieu Béliard, souffrant et qu'on embrasse. Émilie, dans votre 5 sur 5 ce soir donc.
Seulement quelques heures avant qu'Alec Baldwin ne tue la directrice de la photographie par accident, des membres de l'équipe avaient quitté le plateau justement pour dénoncer le manque de sécurité.
On y revient dans votre 5 sur 5. Mohamed, votre story du jour.
Une photo, cette photo a été élue photo la plus belle de l'année 1. Une photo bouleversante et je vous raconte les coulisses de ce cliché ce soir.
Dans votre œil, Pierre, un hommage ce soir.
Oui, l'hommage à Marcel Bluval qui s'est éteint samedi. Très grand réalisateur de télévision, un pionnier de cette grande génération de l'immédiate après-guerre.
Patrick, dans votre édito ce soir.
Lili Raoult suspecté d'essais illégaux sur des tuberculeux.
Autant de sujets que l'on évoque avec nos invités avant de recevoir Laetitia Casta, Guillaume Canet et le champion de Formule 1 Romain Grosjean autour d'une lotte basse température cuisinée par Jean-Christophe Rizet, chef du restaurant étoilé qui plume la lune. Très joli nom de restaurant. Est-ce que c'est bien cela, chef, ce soir au menu, une lotte basse température?
C'est bien cela. Donc on aura une lotte qui sera marinée donc au poivre et épices avec du sarrasin, de la laitue et des trompettes de la mort.
Merci beaucoup Jean-Christophe, à tout à l'heure.
Merci.
Tout de suite l'édito de Patrick Cohen. Didier Raoult et son IHU de Marseille sont donc suspectés d'avoir mené des essais illégaux et d'avoir mis en danger des patients atteints de tuberculose.
Un scandale qui s'ajoute à un dossier déjà lourd pour un institut qui s'est couramment affranchi des règles de méthode et d'éthique, et une affaire d'autant plus grave que Didier Raoult, qui a toujours affirmé qu'il agissait pour le bien des patients, est accusé d'en avoir rendu infirme. De quoi parle-t-on de tuberculose? Infection pulmonaire par le bacille de Koch ou de corps en allemand, maladie de la pauvreté et de la promiscuité, ancienne peste blanche en déclin constant en Occident depuis les années 50 grâce au BCG, le vaccin de Calmette et Guérin, et grâce aux antibiotiques. La tuberculose aujourd'hui, 5000 cas par an en France, souvent des migrants se soignent bien, mais le traitement est long, au moins 6 mois. Or, d'après les révélations de Mediapart et de la journaliste Pascal Pascariello, l'IHU de Didier Raoult a sollicité l'agence du médicament, la NSM, pour tester un traitement plus court, avec un cocktail d'antibiotiques qui ne correspond à aucune recommandation internationale, et dont l'adjoint de Raoult, Michel Drancourt, vantait les mérites l'an dernier encore sur une vidéo de l'IHU.
En particulier, les quatre molécules antilépreuses dont nous essayons de prêcher l'utilisation en première ligne.
Molécules antilépreuses, c'est principalement la clofazimine, mais pas seulement. Deux demandes d'essai ont été faites par l'IHU en septembre 2019 et juillet 2020. Deux refus de la NSM. Aucun argumentaire scientifique n'est apporté sur le choix des molécules, l'association, la posologie et la durée du traitement, écrit l'agence, qui ne voit pas l'utilité de remplacer un traitement de référence qui fonctionne dans plus de 95% des cas.
Et pourtant, ce traitement sauvage a bien été administré par l'IHU de Marseille.
C'est ce que rapporte à Mediapart des témoignages anonymes de personnel de l'IHU. Il a été administré avant, pendant et après les demandes aux autorités de santé et leur refus. De 2017 à mars 2021, les proches de Raoult plaident la prescription hors AMM, autorisation de mise sur le marché, possible, à condition qu'il n'y ait pas d'alternative, et si c'est pour le bien du patient, sauf que ce traitement expérimental aurait envoyé au moins 3 personnes au bloc opératoire. L'un des antibiotiques prescrits, la sulfadiazine, est en effet connu pour entraîner des complications rénales. Les témoins évoquent un mineur de 17 ans hospitalisé pour une hématurie, présence de sang dans les urines, un homme de 62 ans pour une insuffisance rénale aiguë, et un autre de 39 ans pour une pyélonéphrite, une grave inflammation du rein, ces deux derniers patients ayant dû subir la pose d'une sonde.
Combien de patients ont-ils été ainsi traités?
Alors on ne sait pas, mais d'après les données de l'IHU, celui-ci a pris en charge 85 tuberculeux en 2019 et 74 en 2018. On ne sait pas parce que l'IHU depuis vendredi se mure dans le silence. Didier Raoult parle ce midi sur Twitter d'une tempête dans un verre d'eau, mais la tempête pourrait cette fois souffler très fort compte tenu de la gravité des accusations. La PHM, les hôpitaux de Marseille et la NSM ont mené des investigations tout ce week-end. Didier Raoult et son entourage pourraient être poursuivis. Le patron de la PHM évoquait dès vendredi la possibilité de saisir la justice et aussi, selon la Provence, de décider une interdiction de toute activité de recherche. Bref, si c'est une bombe dans le milieu médical, on se demande pourquoi cette bombe n'a pas explosé plus tôt. On sait que des médecins ont alerté à l'automne 2019. Y a-t-il eu des remontées à la PHM, aux autorités de santé et un défaut de vigilance et de réactivité? Ces réponses sont très attendues et pas seulement par ceux qui dénoncent les pratiques irrégulières ou frauduleuses de l'IHU depuis des mois.
Bonsoir Gilbert de Rais, professeur Gilbert de Rais, chef du service de néphrologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris. On est ravis de votre présence ce soir. Ces révélations, elles vous ont fait bondir. Hubris, incompétence, politisation sont les responsables de ces dérives très graves. Voilà votre première réaction, l'hubris, c'est ce sentiment d'orgueil qui pousse à la démesure. C'est un sentiment qui a fait que le professeur Raoult a pu se sentir et se croire tout permis.
Je crois qu'il faut faire extrêmement attention à ce que font les médecins et les scientifiques. Nous disposons d'un savoir et surtout d'un pouvoir qui est considérable. Et nous touchons à l'homme, à la vie. Et donc, on ne doit pas tout nous laisser faire. Et oui, si vous tombez sur des médecins, vous savez, des médecins qui se pensent omniscients, omnipotents, et qui pensent qu'ils auront raison quoi que les autres disent, alors vous courez au désastre. C'est pour ça qu'il y a eu les codes de Nuremberg, c'est pour ça qu'on a fait Lesinski, c'est pour ça qu'on a fait beaucoup d'autres choses. C'est pour empêcher ces dérives. La prescription des médicaments est strictement encadrée pour ces raisons-là. Et parce que la tonne de connaissances qui nous tombe tous les jours est énorme. Donc il faut qu'on soit guidé. Il n'y a pas 50 façons de prescrire. Soit vous avez une AMM qui a été obtenue parce que vous avez fait des études qui conduisent à une dose, une posologie, une durée de traitement. Soit vous n'avez pas d'AMM. Et si vous n'avez pas d'AMM, le cadre de prescription, il n'est pas libre. Non, les médecins ne sont pas libres de prescrire ce qu'ils veulent. Ça n'est pas vrai. Et heureusement. Et heureusement.
Donc il y a pourtant beaucoup de médicaments prescrits hors AMM en France. C'est 20%
du total. Chez l'adulte, c'est 20%. Chez l'enfant, c'est 80%. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu les études nécessaires. Mais ces 20% restants chez l'adulte ont un cadre précis. Je vais vous en donner au moins deux. Le premier, c'est une étude clinique, tout simplement. C'est-à-dire vous comparez un médicament à un autre. Vous êtes hors AMM, vous êtes en train de construire une AMM. On n'est manifestement pas dans ce cadre, puisque les études cliniques qui ont été proposées ont été refusées. Et le deuxième cadre possible, c'est ce qu'on appelle la prescription hors AMM. Mais ça ne veut pas dire que je fais n'importe quoi. Ça veut dire, un, que j'informe le patient extrêmement précisément. Ça veut dire, deux, que je n'ai pas d'alternative thérapeutique. Je n'ai pas d'alternative thérapeutique. Or là, je vous engage à aller regarder les recommandations de l'OMS, qui sont extrêmement précises, qui ont été bâties par des dizaines et des dizaines de spécialistes du monde entier. Pourquoi ? Parce que la tuberculose, c'est 1,4 million de morts par an. C'est la cause de mort la plus fréquente pour les maladies infectieuses avant la Covid, avant que la Covid arrive. Et la deuxième chose qu'il faut bien comprendre, c'est que la prescription AMM se fait sur des notions scientifiques évidentes, certaines. Il n'y a ni les notions scientifiques, ni le fait de ne pas avoir d'alternative, parce qu'on en a une. Donc je ne comprends pas ces prescriptions. Pourquoi j'ai réagi comme ça ? Parce que si on laisse faire ce genre de choses, et on verra ce que dit l'IHU, car je n'ai pas encore évidemment tous les éléments, que l'IHU nous explique ce qui a été fait. Si on laisse faire ce genre de choses, les dérives deviennent très graves, et c'est les patients qui en ont les conséquences. Et on le voit dans ce dossier.
L'une des raisons qui aurait poussé Didier Raoult à faire des expériences, une expérimentation pour mettre au point un traitement plus court, la raison pour laquelle il se serait lancé dans cette expérience, certains témoins, cités par Patrick et Mediapart, y répondent sur ces raisons, notamment Laurent et Alban, dont les prénoms ont été changés. Didier Raoult veut avant tout faire parler de lui. Il ne se préoccupe plus de la santé des patients, mais davantage de sa renommée. Il fait régner la terreur, mais la goutte d'eau a été de voir deux patients finir en urgence ou bloc opératoire pour des complications rénales qu'on aurait pu éviter. Ils sont roubains et ne porteront jamais plainte. Ils ne se doutent même pas qu'ils ont été utilisés pour des essais interdit. Le terme de cobaye est même utilisé. C'est le terme que vous pourriez employer également pour ces expériences menées à l'IHU de Marseille ?
Si ces expériences ont été faites telles qu'il est dit. Ah oui, évidemment. Et alors, une nouvelle fois, moi je me réfère au code de Nuremberg. On a voulu à tout prix éviter que l'homme 100% avec un grand H, servent de cobayes pour des personnes qui étaient, on va dire, mal intentionnées. Vous savez, je crois qu'on est exactement dans le même syndrome depuis maintenant 2 ans. Et ce qui s'est passé, ce qu'on voit là, c'est exactement ce qui s'est passé avec l'hydroxychloroquine. On pense être le meilleur du monde. On pense avoir une idée géniale. Mmh. On pense avoir raison contre tout le monde. On donne le médicament contre l'avis de tout le monde. Et même lorsque les études après vous montrent que ça n'est pas vrai, que ça ne marche pas, on continue quand même et on pense quand même qu'on a raison.
Ça, c'est l'hubris.
Ça, faut l'arrêter. Et ça, c'est l'hubris. Et quand vous rajoutez de là-dessus de la politique, il dira où finalement, dans la chloroquine, moi, ce que je dis, c'est qu'il n'a été qu'un pantin dont les fils ont été tirés par des gens bien plus puissants que lui, Bolsonaro, Trump et Narendra Modi, qui se sont servis de ce qui leur a été offert pour faire du mal à leur population. Vous avez vu ce qui se passe au Brésil avec l'affaire de cette chaîne d'hôpitaux qui ont donné des kits de chloroquine à des vieilles personnes et qui les ont laissé mourir parce qu'ils ne voulaient pas que l'on puisse dire que l'épidémie était un problème. Donc quand vous mélangez l'hubris et la politique, vous avez un désastre.
Une question au néphrologue, la sulfadiazine, cet antibiotique qui figurait apparemment dans le cocktail Raoult, enfin en tout cas première version, vous en connaissiez les complications rénales?
Oui, très bien, puisqu'en fait, il est assez peu utilisé, mais il a été très utilisé dans le HIV avant qu'on ait les médecins, dans le toxoplasmose. Donc moi, j'ai eu à gérer les complications rénales de ce médicament. C'est un médicament qui précipite dans le rein et qui donne des insuffisances rénales aiguës sévères. C'est un médicament qui n'est pas facile du tout à manier. Et une nouvelle fois, on a les médicaments pour soigner la tuberculose, y compris les 200 000 cas de tuberculose multirésistante, parce que c'est de ça dont on parle. Mmh. Et l'OMS nous donne des guides, des prescriptions aussi pour ces patients.
Il y a un intérêt à essayer de trouver un traitement plus court?
Il y a toujours un intérêt, oui, parce que quand vous avez une tuberculose, c'est déjà des mois. Quand vous avez une tuberculose multirésistante, ça peut aller jusqu'à 2 ans. Et une des tâches de l'OMS en ce moment, qui vraiment travaille beaucoup sur ce sujet, c'est de trouver des durées plus courtes. Mais si vous voulez trouver un traitement plus court, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une proposition sur des bases scientifiques solides et vous comparez votre traitement à un traitement qui est déjà acté. Et puis au bout de quelques mois de traitement, vous dites le mien est plus efficace. Mais surtout, ce que vous ne faites pas, c'est de faire un traitement sauvage sans groupe comparatif.
Didier Raoult a répondu ce matin par un tweet, Patrick le rappelait, une tempête dans un verre d'eau. Il y a quelques jours, voilà comment il défendait ses équipes sur une vidéo. C'était avant les révélations de Mediapart.
Il y a des gens de très très grande qualité ici, et en maladie infectieuse, je ne pense pas qu'il y ait une densité comparable au monde à celle que nous avons ici. Donc il faut arrêter de nous insulter, il faut arrêter de mal nous traiter, il faut que l'État nous protège un peu, plutôt que de se faire insulter par le CNRS ou l'INSERM. C'est bien qu'il nous protège, parce que si ce pays doit avoir un avenir, ça sera grâce à des gens comme nous qui font ce que nous faisons, c'est-à-dire que nous soignons les gens, nous publions, nous travaillons en dépit du harcèlement dont nous avons été l'objet depuis ces dernières années.
Le professeur Raoult qui plaide le harcèlement dont il a été la cible.
Alors pour le moins,
Qui se engage des actions en justice pour se plaindre de ce harcèlement. Et la Provence d'hier a révélé un chiffre assez troublant puisqu'il bénéficie de la protection
fonctionnelle.
La protection fonctionnelle, donc ça veut dire que ses frais de justice sont pris en charge par son institution, donc par l'État, et pour l'instant, ses frais d'avocat s'élèvent à 66 000 euros, écrivait La Provence hier.
Vous savez, il y a plusieurs choses. Le problème, c'est que ce que j'entends, moi, c'est encore l'hubris. Nous sommes les meilleurs, nous sommes les meilleurs, nous sommes les meilleurs. Je crois qu'il faut, là aussi, faire attention, même s'il y a des gens bien dans cette équipe, je ne vois pas l'intérêt de dire en permanence qu'on est les meilleurs. Vous avez dans le monde beaucoup de gens qui sont aussi très très bons dans ces domaines. La deuxième chose, c'est que c'est ce qui se passe depuis 18 mois, on s'aperçoit en fait que ça se passait avant, c'est-à-dire un non-respect de l'éthique, du protocole et des règles. C'est ça qu'on est en train de constater. Quant au harcèlement, moi j'en sais quelque chose. Qu'est-ce qu'on a subi comme harcèlement depuis des mois, sans déposer plainte, nous?
Vous qui dénonciez éventuellement...
Et oui, on est immédiatement harcelé, insulté, menacé, et vous avez des collègues quand même qui ont été largement menacés de mort par un article de François relayé par Didier Raoult. C'est quand même assez extraordinaire. Donc ça s'appelle une inversion des rôles.
Et face à cela, est-ce que vous êtes de ceux qui vous posez des questions sur l'inertie, l'attentisme ou l'apathie des autorités de santé
Moi, je m'interroge, de quelle protection bénéficie Didier Raoult? Comment est-ce qu'on peut accepter depuis des années que des études soient faites dans ces conditions, comment on peut accepter ce qui s'est passé avec l'hydroxychloroquine et pourquoi, alors que l'on sait que, par exemple, sur cette affaire, des traitements sont donnés pour des patients, attention, hein, hautement contagieux, qui, s'ils ont une tuberculose multirésistante, sont menacés de mort quand même. Mmh. Comment est-ce qu'on peut accepter de tels protocoles, dont on sait qu'ils sont en cours, sans avoir été sur place, voir ce qui se passait? Je ne sais pas pourquoi.
Bon, il y a des procédures en cours et on a vu tout à l'heure que Didier Raoult est convoqué devant le Conseil de l'Ordre à Bordeaux début novembre, puisque la procédure a été délocalisée, elle est sortie des Bouches-du-Rhône. C'est à Bordeaux et c'est, je l'ai vu parce que ses partisans appellent déjà à se rassembler pour le soutenir début novembre à Bordeaux.
Et le ministère de la Santé a décidé aujourd'hui de diligenter une enquête sur l'IHU de Marseille, enquête qui sera menée par l'IGAS, l'Inspection Générale de la Santé. C'est donc le sommet de l'État maintenant qui veut savoir ce qui s'est passé, alors qu'il y a quelques semaines sur ce plateau, Olivier Véran n'était pas si catégorique sur le cas Raoult quand Patrick Cohen l'interrogeait.
Je ne vous ai jamais entendu dire un mot désagréable à l'égard de Didier Raoult. Ça vous a d'ailleurs été reproché par pas mal de médecins. C'est pour ménager une personnalité ombrageuse ou pour ne pas vous aliéner ses partisans qui sont toujours nombreux?
Il y a Didier Raoult qui appelle à la vaccination, qui appelle au port du masque. Et puis, il y a la part plus ombrageuse. Il y a un côté scientifique chez lui qui est respectable, un côté géotrouve-tout, un côté touche-à-tout. Quand il a identifié les tests, il a fait les premiers tests PCR. Mais à côté de ça, il y a cette espèce d'emballement, d'emportement avec des prises de parole qui ont eu un effet, je le dis là pour le coup, désastreux sur une partie d'opinion.
Un géotrouve-tout mais qui s'emballe. Quoi,
c'est
en
sympathique
gros.
Quand même.
Je trouve que c'est tout à fait modéré comme propos et égard à ce qu'on vit depuis 18 mois. Une nouvelle fois, je voudrais rappeler quelque chose. C'est pas Didier Raoult l'enjeu. Je m'en moque, moi, de Didier Raoult. À l'aune de la planète, tout ce qui se passe, il ne représente rien. C'est le fait qu'il soit à la tête de l'IHU de Marseille, de l'IHU d'infectiologie. Et je vais me répéter ce que je l'avais déjà dit ici.
Hein. À la retraite.
L'IHU d'infectiologie, c'est censé être un phare mondial. Mondial. C'est pour ça que ça a été bâti. On a injecté des centaines de milliers d'euros dans cet IHU. Quand on regarde ce qui a été fait par cet IHU pour la Covid depuis 18 mois, pour la majorité des choses qui ont été dites, c'est faux. Pour la majorité de choses qui ont été faites, ça a été dit à l'envers. On va le refaire rapidement. Hein. Il n'y a pas d'épidémie, il n'y aura pas de première vague, il n'y aura pas de deuxième vague, il n'y aura pas de vaccin. On va les traiter par le VIX, par la cyclosporine. C'est la chicha qui est responsable de la vague suivante. J'en passe et des meilleurs. Comment est-ce qu'on a pu laisser la France être représentée par l'IHU, notre IHU, de cette façon-là? Qu'est-ce qui va rester de l'image de la France dans la Covid? Hydroxychloroquine, dont le monde entier sait maintenant que c'est inefficace. Et le seul qui aujourd'hui dit encore que ça marche, c'est l'IHU d'infectiologie de France. Il faut que ça cesse.
La Covid-19 qui fait toujours l'actualité, Pierre.
Après 8 semaines d'accalmie, les cas repartent à la hausse dans l'Hexagone, faisant craindre une 5e vague. Vous la craignez?
Alors, elle commence, oui, elle va avoir lieu. Ce que j'espère, c'est deux choses. La première, c'est que nous aurons beaucoup moins d'hospitalisations, beaucoup moins de décès grâce à la vaccination. Et la deuxième chose que j'espère, c'est grâce au vaccin et aux gestes barrières, et c'est là qu'est le point faible, nous aurons moins de cas. Ça va monter. Ce qu'il faut, c'est qu'on évite un cas à la britannique.
Oui.
50 000 cas par jour.
Mais très peu d'hospitalisation.
1 000 morts par semaine. 1 000 morts par semaine. Par semaine, donc 50 000 par an. Oui. Est-ce qu'on veut accéder... Et un taux d'hospitalisation qui, heureusement, est beaucoup plus faible, qui monte doucement. Est-ce qu'on veut accepter 50 000 morts par an de la Covid? Ou non. Si on ne veut pas, il faut garder des gestes barrières et un pass sanitaire.
Et une troisième dose pour tous?
Alors pour l'instant, c'est les plus de 65 ans et c'est les fragiles.
On n'y viendra pas pour tous?
On y viendra, ça j'en suis sûr.
À quelle échéance? D'ici à la fin
de
l'hiver?
Dans les semaines, mois qui viennent, oui, on va y venir.
Merci professeur
Deray. Merci à vous.
Vous restez avec nous, on continue à évoquer l'actualité avec la story de Mohamed Bouabsi. Bonsoir Mohamed.
Bonsoir Mohamed, bonsoir à tous.
Ce soir, vous nous racontez l'histoire derrière une photo qui a fait le tour du monde.
Une photo bouleversante. Voici la photo de l'année, intitulée « The Hardship of Life », ce qui signifie « la dureté de la vie ». Ce cliché bouleversant a remporté le prix international de la photo de Sienne, un concours parmi des dizaines de milliers d'images soumises par des photographes de 163 pays. Cette photo traduit à la fois l'horreur de la guerre, mais aussi l'amour de la famille. Le cliché montre un père, Mundir, et son fils, Mustafa, jouant ensemble dans la rue à Rey Hanli, dans la province turque de Hatay, à la frontière avec la Syrie. Ce qu'ils ont vécu, c'est ça. Attention, ces images sont choquantes.
Ce sont des images insoutenable. Dans cet hôpital syrien, des hommes, des femmes et des enfants par centaines asphyxiés. Rares sont les survivants. Dehors, dans ces maisons en apparence intactes, des corps sans vie et sans blessures visibles gisent sur le sol.
Moustapha a 5 ans. Il est né sans membres inférieurs et supérieurs en raison d'un trouble congénital causé par les médicaments de sa maman qui a été empoisonnée par le gaz neurotoxique libéré par le dictateur syrien Bachar el-Assad pendant la guerre. Moundir, son papa, a perdu sa jambe droite quand une bombe a été larguée alors qu'il faisait le marché à Idlib, en Syrie. Je voulais montrer la violence de la guerre, sa tristesse, mais mon objectif n'est pas atteint. Il le sera quand Moustapha aura ses prothèses électroniques. Cet enfant doit être sauvé. Sa mère aussi. Elle souffre encore beaucoup. L'objectif est clair pour le photographe, obtenir le plus de soutien possible pour Moundir et Moustapha et faire entendre leur voix. Cet enfant a besoin de prothèses électroniques pour se déplacer, un matériel qui n'existe pas en Turquie. La maman de Moustapha, Zeynep, s'en veut. En se soignant avec des médicaments, elle a entraîné la paralysie de son fils. Aujourd'hui, elle supplie le monde d'offrir une meilleure vie à son enfant. J'ai capturé un moment simple entre un père et son enfant. Mon objectif est de venir en aide à Moustapha et sa famille. Sa maman, cet enfant a besoin de prothèses électroniques complexes qu'on ne trouve pas en Turquie, qu'on trouve à l'étranger. Ce prix résonne avec une actualité. En France, une trentaine de personnalités influentes militent pour le retour de 180 enfants français qui ont moins de 7 ans. Ces enfants n'ont connu que la vie en captivité au nord de la Syrie. La plupart sont orphelins. Les intellectuels français en appellent à Emmanuel Macron pour leur rapatriement.
Les enfants des autres pays européens sont en train de quitter le camp. Seuls restent bientôt les enfants français pour les pays européens. C'est une injustice totale que je ne supporte pas. J'ai eu l'occasion de recevoir les premiers enfants qui sont rentrés en France, des enfants souvent orphelins, de suivre leur parcours, de voir que ces enfants sont des enfants comme les autres, des enfants résilients, des enfants qui peuvent avoir des soins, qui peuvent réintégrer leur famille. Pour moi, c'est incompréhensible que ces enfants restent là-bas.
Gilbert Deray, en tant que médecin, scientifique, estimez-vous qu'on doit rapatrier ces enfants orphelins en Syrie? On parle de 180 enfants.
C'est même pas en tant que médecin, c'est en tant que homme français. Il faut effectivement les rapatrier, il ne faut pas les laisser mourir là où ils sont. Et quand je vois cette image, elle entre douloureusement en résonance avec ce que nous vivons, c'est-à-dire ce monde où nous, on discute de notre éventuelle troisième dose alors qu'à nos portes, nous avons ce genre de tragédie. Donc tant qu'on n'aura pas compris que nous sommes sur le même monde, qu'il faut un peu partager, ce monde finira par périr de son arrogance et de sa stupidité. Donc oui, il faut les rapatrier au plus vite.
Merci beaucoup. Merci, Mohamed, Barrette. Vous restez avec nous. Depuis qu'il est en campagne sans être candidat, Éric Zemmour multiplie les déclarations qui heurtent. Vichy, Pétain, la rafle du Veldiv, la loi Guesso qui réprime le délit de négationnisme et qu'il voudrait abolir, ou encore ses attaques à l'égard de la famille Sandler, étranger avant tout et voulant le rester par-delà la mort, parce qu'ayant choisi d'inhumer en Israël Arié et Gabriel Sandler, 6 et 3 ans, assassinés en 2012 par Mohamed Merah.
Éric Zemmour, il est en train d'écrire un livre qui s'appelle « J'irai cracher sur vos tombes ». Voilà ce que fait Éric Zemmour quand il dénie la nationalité française à des enfants juifs français assassinés en France par un terrorisme islamiste. S'il veut continuer à cracher sur la tombe des victimes de terrorisme, à fouler donc le message d'un homme qui porte l'idée de justice très haut, qui est Samuel Sandler, qui est mon client, effectivement, il devra en répondre en justice. Et maintenant, nous disons simplement, cela suffit.
Depuis, le président du CRIF, Francis Khalifa, a lancé un appel pour qu'il n'y ait pas une seule voix juive pour le potentiel candidat à la présidentielle, pour parler ce soir du malaise ressenti par la communauté juive de France. Eli Korchia, le nouveau président du Consistoire central, instance suprême de représentation du judaïsme français, il est ce soir notre invité. Bonsoir Élie Corchia, nouveau président du Consistoire central de France, l'un des plus hauts représentants du judaïsme en France, avec le grand rabbin de France, Haïm Corchia. Vous êtes par ailleurs avocat et vous avez notamment représenté Samuel et Myriam Sandler, parents et grands-parents de trois des quatre victimes de Mohamed Merah en 2012 à l'école Ozara Torah de Toulouse. Les enfants Sandler qu'évoque donc Éric Zemmour dans son livre, déjà vendu à plus de 200 000 exemplaires, dans un chapitre intitulé « La terre et les morts ». Assassin ou innocent, bourreau ou victime, ennemi ou ami, ils voulaient bien vivre en France, faire de la garbure ou autre chose. Mais pour ce qui est de laisser leurs os, ils ne choisissaient surtout pas la France, étranger avant tout, et voulant le rester par-delà la mort. Une controverse que le polémiste a tenté de désamorcer dès le 18 septembre dernier, en meeting à Nice, mais en écorchant le nom des enfants Sandler.
Micro, il écorche le nom des enfants Sandler.
Les enfants Santander.
Puis une seconde fois encore.
Et ces enfants-là, Santander, ont été enterrés en Israël.
S'apercevant de la faute répétée, sa proche conseillère Sarah Knafo griffonne sur un bout de papier le nom exact des trois victimes. Trop tard, l'erreur ne sera jamais corrigée. Le meeting à peine achevé, elle informe Zemmour de sa bévue et lui montre l'antisèche qu'il n'a pas remarqué, avant de la dérober à la vue des caméras.
Depuis, Éric Zemmour dénonce une instrumentalisation politicienne de l'émotion, hier encore invité du grand jury RTL Le Monde.
Je pense que M. Sandler, vous voyez, je le prononce, M. Sandler est malheureusement, et c'est tout à fait, je le comprends très bien, obsédé par sa douleur, et c'est tout à fait légitime. Il est aussi, je le crains, manipulé par des avocats qui veulent se servir de lui pour me combattre.
Il est manipulé, vous pensez?
Je pense que malheureusement, il est instrumentalisé. Éric Zemmour. Je retire le mot manipulé.
Ce soir, à l'Écorchia, vous vouliez interpeller directement Éric Zemmour.
Oui, Anne-Elisabeth, lorsque, effectivement, j'ai été en contact avec vos équipes qui m'ont téléphoné ce matin en tant que nouveau président du consistoire israélite de France, je me suis dit qu'il y avait quand même à un moment donné la nécessité, si ce n'est d'interpeller, en tout cas de lancer un appel, c'est d'arrêter cette polémique. On n'est plus sur une polémique stérile, on est sur une polémique qui devient insupportable. D'abord, je pense insupportable vis-à-vis de ceux qui ont vécu dans leur chair le drame, parce qu'on parle bien d'un drame humain avant tout ici, ce n'est pas un débat philosophique. C'est un papa de 30 ans, un enseignant, qui est mort devant les portes d'une école, ce qu'on n'avait jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale, le 19 mars 2012. Et quelques années avant Samuel Paty, déjà, un enseignant qui tombait sous les balles d'un terroriste, et des enfants. Et donc, je pense que la première des choses qu'il faut faire, c'est respecter la mémoire de ceux qui ont vécu ce drame et qui ont été d'une dignité exceptionnelle pendant toute cette affaire. Avant les procès, pendant les procès, Samuel Sandler a été d'une dignité, d'une mesure, d'une retenue extraordinaire. Et je crois que tout le monde l'avait remarqué à l'époque.
Dire aujourd'hui qu'il est obsédé par sa douleur et instrumentalisé, ça c'est...
C'est le problème des polémiques qui continuent. Quand une polémique continue, elle enfle. Quand elle enfle, on rajoute à chaque fois une pièce dans la machine, si vous me permettez cette expression. Et là, à un moment donné, ça n'est pas possible parce que ça oblige d'autres à être aussi dans la réplique. Et malheureusement, ceux qui en souffrent, ce ne sont pas ni les polémistes, ni ceux qui commentent, ni ceux qui sont dans l'actualité politique. Moi, je ne suis pas un politique ici. Ce soir, je ne suis même pas un avocat. Vous m'avez invité suite à mon élection hier à la tête du Consistoire de France. Je suis avec ma kippa sur la tête. Et je suis là ce soir pour vous dire quelque chose qui est vraiment... La volonté de Samuel Sandler avec qui j'étais cet après-midi. Samuel Sandler m'a dit « J'aimerais que ça s'arrête. Mon fils ne le mérite pas. La mémoire de mon fils, la mémoire de mes petits-enfants ne mérite pas cela. » Et je vais vous dire, je pense que le débat public ne le mérite pas non plus. Alors peut-être que c'est parti comme ça et ça a été ensuite, non pas instrumentalisé, personne n'instrumentalise Samuel Sandler. Et je le dis, le mot « obsédé » n'est pas adéquat. Samuel Sandler, c'est quelqu'un qui n'est obsédé par rien. Il n'était même pas obsédé par l'idée de vengeance. Il a voulu que la justice passe, il était présent au procès du premier jour au dernier jour. Il a assisté à toutes les audiences, il a toujours été dans la retenue. Et d'ailleurs, quand on pense au procès des attentats de Toulouse et de Montauban, on se rappelle souvent de Latifah Ibn Ziaten, la mère d'Imad, ce militaire tombé sous les balles du terroriste, et très souvent de Samuel Sandler, souvent, parce qu'on sait combien il a marqué l'histoire de ce procès. Donc ce que j'aimerais dire ce soir, s'est lancé non pas un appel, je ne suis pas là pour interpeller, je ne suis pas là pour dire qui doit être candidat, qui ne doit pas l'être. Vous savez, je ne crois pas au vote juif. Je n'ai jamais cru dans notre pays. Les juifs sont des citoyens comme les autres, ce sont des juifs français et des français juifs qui votent selon toutes les élections, d'ailleurs avec leur propre volonté, leurs propres sentiments. En revanche, la communauté juive de France a toujours été particulièrement attachée à ne jamais être avec les extrêmes. Et ça, c'est important. Et c'est un discours que nous, les dirigeants, les représentants des Juifs de France, eh bien, nous avons toujours tenu à rappeler. On essaye d'éviter les extrêmes. Parce qu'on sait que dans le passé, les extrêmes nous ont malheureusement amenés à des situations souvent inextricables et malheureusement très dangereuses.
Vous lancez un appel à la façon du patron du CRIF qui veut qu'aucune voix juive ne soit portée au crédit d'Éric Zemmour.
J'ai entendu la déclaration de mon ami Francis Khalifa. Lui, il s'occupe de la vision politique de la chose. Je ne suis pas sur une question de voix, je ne suis pas sur une question de candidature. Qu'Éric Zemmour soit candidat ou ne soit pas candidat, ce sera son problème. Moi, on n'en est pas encore là. Je n'ai pas dit que nous ne serons pas à un moment donné, peut-être, si vraiment les choses évoluent d'une telle manière qu'on doive se positionner, évidemment. Là, ce que je voudrais ce soir, et je vous le dis d'ailleurs après en avoir parlé avec Samuel, il m'a dit tout à l'heure avec une émotion dans la voix que j'ai rarement ressentie. J'aimerais qu'on arrête. Qu'on parle de mon fils, qu'on parle de mes enfants, de mes petits-enfants, pour rappeler leurs souvenirs, c'est une chose. Mais qu'on en parle dans ces conditions-là et dans ces termes-là, ils ne le méritent pas. Vous savez, on commémorera dans quelques mois le dixième anniversaire déjà, des attentats de Toulouse et de Montauban. Je crois vraiment que la mémoire de Jonathan, Arié et Gabriel mérite qu'on arrête cette polémique. Et moi, ce que j'aimerais, de la part non pas du polémiste, non pas de celui qui pourrait peut-être de temps en temps vouloir faire le buzz dans le cadre d'une campagne que je ne maîtrise pas et que je ne veux même pas connaître. Ce que j'aimerais, c'est que ce soir peut-être, après ces derniers jours et cette polémique qui a continué à enfler, qui n'est pas bonne pour le débat public, qui n'est pas bonne pour le débat des idées, qu'Éric Zemmour fasse campagne, c'est son problème, mais que ce soir peut-être, à un moment donné, et peut-être qu'il nous entendra, il m'entendra peut-être en tant que nouveau président du Consistoire de France, peut-être qu'il se dise, allez, à un moment donné, il faut arrêter tout ça. Mémoire et respect pour la famille Sandler et pour Jonathan, Arié et Gabriel, et qu'on arrête là.
Une enquête fait ce soir la une du Monde, datée de demain, qui démontre à quel point le discours d'Éric Zemmour peut avoir un écho, y compris dans la communauté juive, en instrumentalisant sa peur des attentats islamistes. Est-ce que ça vous inquiète que le discours d'Éric Zemmour ait un écho ?
Vous savez, à partir du moment où la communauté juive de France, au cours de ces 15 dernières années, il y a eu les attentats terroristes, mais il ne faut pas oublier aussi les attentats qui sont liés à cet antisémitisme ordinaire, cet antisémitisme du quotidien qui a entraîné des crimes de droit commun horribles. Rappelons simplement Ilan Halimi, Sarah Halimi et Mireille Knoll ces dernières années. À partir du moment où la communauté juive a subi ces traumas, parce qu'on parle vraiment de traumatisme au sein des Juifs de France, il ne faut pas s'étonner qu'un certain discours, que certaines thématiques puissent effectivement trouver écho dans une partie des personnes de confession juive dans notre pays. Maintenant, je voudrais vraiment, contrairement à ce qui peut ressortir de cet article du Monde, qu'on ne fasse pas de généralité. Parce que je crois très sincèrement que parmi les membres de confession juive de notre pays, dont je fais partie, il y a vraiment des sensibilités extrêmement différentes. Et encore une fois, s'il y a peut-être une chose qui les rassemble, c'est qu'ils ne veulent pas qu'un certain discours qui puisse passer dans cette campagne électorale puisse passer comme si c'était finalement une atteinte à nos valeurs. Nous sommes surtout attachés, avant de voir les partis, les positions et les thématiques politiques, on est surtout attachés à des valeurs. Et là, on est en train de toucher à certaines valeurs pour lesquelles, je crois, une très très grande partie de la communauté juive de France, mais je crois d'ailleurs de tout notre pays, est attachée.
La pandémie, le confinement ont été, semble-t-il, des détonateurs d'actes ou de gestes antisémites. Il faut dire que l'antisémitisme s'est toujours nourri des périodes de doute et de peur. Plus grave, car peut-être plus profond, une enquête menée durant 2 ans dans 16 pays de l'Union européenne fait monter à 20% en moyenne les points de vue antisémites de certains Européens. On parle souvent de la Hongrie et de la Pologne, mais l'enquête a constaté les mêmes dérives sérieuses en Grèce et en Roumanie. Les pourcentages, en revanche, sont très très faibles dans des nations comme les Pays-Bas et la Suède. En France, vous diriez quoi ?
Écoutez, je pense qu'en France, il y a une inquiétude et une vigilance de tous les instants. Je le vois, je parlais du consistoire, mais c'est la même chose avec mes amis qui sont au CRIF. On parlait de Francis Khalifa ou au Fonds social Juif Unifié avec mon ami et confrère Ariel Goldman. Nous avons une vision globale du problème. Et on se rend compte que nos services de renseignement, d'abord, ont fait énormément de travail au cours de ces dernières années. Donc ça, c'est quand même le point positif, si j'ose dire. Parce qu'il y a des actions qui restent antisémites, parfois qui donnent lieu à des dépôts de plaintes beaucoup plus effectivement qu'avant, mais d'autres qui parfois sont des actions insignifiantes. On croit que ce n'est pas grave, mais il faut déposer plainte à chaque fois, parce que chaque acte antisémite, eh bien, est un acte contre les valeurs que nous défendons dans la République. Et puis à côté de ça, je voudrais quand même rappeler qu'il y a un mois à peine, il y a un jeune qui avait commandé une Kalachnikov en rentrant via le net, qui avait voulu commander cette Kalachnikov et qui avait quand même pris des renseignements sur Internet sur des synagogues. Donc la menace antisémite, elle reste là. Je crois que depuis, on est en train de vivre actuellement le procès des attentats du 13 novembre 2015. On a compris en 2015, en janvier puis en novembre, ce qu'on n'avait peut-être pas vraiment compris d'ailleurs en mars 2012 avec l'affaire de Toulouse, les drames de Toulouse et Montauban, c'est que ce n'est pas que les Juifs qui sont touchés, ou les militaires par exemple en mars 2012, c'est toute la France qui est visée par les actes terroristes. Seulement, soyons clairs, c'est un petit peu Orwell revisité, si tous les Français sont égaux devant le terrorisme aujourd'hui, les Juifs de France sont un petit peu plus égaux que les autres. Donc on est très vigilants, et vous avez raison de le rappeler, les derniers chiffres en la matière, que ce soit en France, mais aussi au niveau européen, sont de nature à nous inquiéter, dont la vigilance particulière que nous avons. Et encore une fois, je pense que ce type de débat dont nous avons parlé en première partie, s'il pouvait être évité, ça pourrait nous aider aussi.
Merci beaucoup, Élie Korchia, nouveau président du Consistoire central de France, d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Vous restez avec nous, c'est l'heure du 5 sur 5 d'Émilie Tringuyenne. Bonsoir Émilie. C'est tout un symbole, le prix du pain augmente.
Un symbole parce que le prix du pain, normalement, c'est la dernière chose que l'on touche, même en cas de crise ou en cas d'inflation. Preuve avec la ligne de cette courbe que vous allez voir. C'est une courbe assez stable en fait. Le prix de la baguette n'a augmenté que de 37 centimes en 30 ans. La boule de la baguette coûtait 53 centimes en 1992. Elle est à 90 centimes aujourd'hui. Or là, en quelques jours, elle pourrait augmenter de 5, voire de 10 centimes. Pour en avoir le cœur net, Anaïs Recouli, Audrey Payas ont mené l'enquête dans une boulangerie du 16e arrondissement de Paris. Ici, le boulanger n'a pas touché au prix de la sacro-sainte baguette. En revanche, il a augmenté le prix des autres pains.
On a décidé d'augmenter que nos pains spéciaux, c'est-à-dire toute la gamme de pains spéciaux. On n'augmentera pas la baguette classique ni la baguette de tradition. Voilà pourquoi c'est un choix qu'on a fait nous en interne pour continuer à garder la proximité avec nos clients et de ne pas impacter de trop leur pouvoir d'achat, sachant que tout augmente au jour d'aujourd'hui.
Une astuce pour préserver le client, mais même ici, dans les beaux quartiers de la capitale, la hausse des prix du pain ne passe pas inaperçue.
L'augmentation du prix de la farine et des céréales, au fait. Le blé a pris 30%, et du coup, on est impacté sur la farine au niveau de 15% d'augmentation.
Il faut qu'ils gagnent leur pain aussi, donc voilà, compréhensible.
On n'a pas le choix, à part faire le pain moi-même, mais je pense que c'est ce que je vais faire.
Mais on est obligé, hein, on sera obligé quand même de suivre. Hein.
Vous allez continuer à en acheter?
Bah bien sûr.
Donc, ma foi, qu'est-ce que je vais vous dire? C'est un mal nécessaire, j'ai envie de dire.
Les clients n'ont pas le choix et à écouter le boulanger, lui non plus.
On a besoin de rester dans nos marges et dans nos coûts, au fait. Et du coup, c'était vraiment une décision qui était obligatoire à prendre. Aujourd'hui, on travaille avec un four électrique. Quasiment tout est électrique chez nous. Et du coup, c'est vrai, avec l'augmentation aussi de l'électricité, on est obligé de... Ça fait partie de l'augmentation, voilà. Il n'y aura peut-être pas que le pain qui augmentera par la suite, peut-être aussi les pâtisseries. Peut-être également les salades ou les sandwichs, parce que le packaging, l'emballage augmente aussi. Tout augmente, en fait.
Mais selon les spécialistes, à partir du moment où les prix du pain augmentent, ils ne redescendent plus, même en cas de baisse des prix du blé. C'est en tout cas ce qui a été observé les dernières années.
Anne Hidalgo a choisi Lille pour son premier meeting de campagne.
Oui, elle avait eu beau se déclarer officiellement candidate à Rouen le 12 septembre dernier. Depuis, il n'y a plus de grands discours. Alors ce week-end, ce rendez-vous donné à Lille a été vu comme le premier vrai meeting de campagne. Autrement dit, la première fois qu'Anne Hidalgo a endossé le rôle d'une présidente de la République potentielle. Louis Amar et Audrey Payas y étaient. Alors c'est bien une ambiance de campagne qu'on a vue, mais pour être vraiment candidat ou candidate à la présidence, il faut afficher ses soutiens. Anne Hidalgo a choisi Lille parce que son soutien de première ligne, c'est une autre femme politique, la maire de la ville du Nord, Martine Aubry.
Est-ce qu'elle a besoin d'être relancée cette campagne ?
Elle a besoin d'être lancée puisque c'est le premier jour où elle est investie.
Pas d'inquiétude à la lecture des sondages ?
Moi, je regarde qui elle est, je regarde ce que veulent les Français. Et ça me rassure. Les gens en ont assez de la haine, de repousser les autres, de ces inégalités croissantes, de ces discours sans fin et surtout sans suite. Voilà, ils veulent retrouver la politique. Et je pense que Anne a toutes les qualités pour cela.
Donc c'est une candidature pour gagner ?
Ah bah oui, c'est une candidature pour gagner.
Autre figure présente samedi à Lille, il y avait l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, le secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, le sénateur socialiste Patrick Kanner, l'ancienne ministre et actuelle conseillère régionale Najat Vallaud-Belkacem. Voilà pour les soutiens, mais une campagne lancée, ça veut aussi dire des propositions.
D'abaisser l'âge du vote à 16 ans. Nous le ferons en France. Un ISF climatique pèsera sur les ménages les plus aisés, dont d'ailleurs le patrimoine émet le plus de carbone. L'égalité total des salaires en 5 ans. Nous créerons un service public de la petite enfance, une assurance chômage universelle. L'encadrement des loyers sera généralisé. Nous ouvrirons à celles et ceux qui le veulent le droit de mourir dans la dignité.
Enfin, une candidate en campagne, ça cherche à convaincre des militants.
Pourquoi elle ne prend pas la campagne d'Anne Hidalgo ?
Ben ça y est, aujourd'hui, elle commence. Il ne faut pas anticiper les choses.
Quand on part dans une campagne, c'est pour faire entendre nos idées, notre projet, et pour gagner si possible.
Écoutez, une campagne électorale, si vous partez perdant, vous ne risquez pas de gagner.
Il faut maintenant que cette campagne d'Anne Hidalgo se développe, que les propositions soient entendues, et aujourd'hui, c'est un point de départ. Donc avant l'heure, c'est pas l'heure, et l'heure, c'est maintenant.
Vous pensez qu'elle peut gagner l'élection ?
Je n'irai pas jusque-là. Je pense qu'il faut se battre pour qu'elle fasse un score honorable.
Bon, certains restent prudents, pour ne pas dire sceptiques, car certes, la campagne vient tout juste de démarrer. Mais pour l'instant, Anne Hidalgo ne dépasse pas les 6% d'intention de vote. Ça, c'est pour les sondages les plus optimistes. Et malgré ça, elle ira jusqu'au bout. Elle n'a cessé de le répéter. Du coup, Louis Amar et Audrey Payas ont voulu être bien sûrs.
Bon, pourquoi vous avez précisé que vous iriez jusqu'au bout ?
Merci.
Madame Hidalgo, un petit mot, s'il vous plaît.
Merci.
Madame Hidalgo, pourquoi préciser que vous iriez jusqu'au bout ?
Merci.
Bon, c'est un échec. Mais ira-t-elle jusqu'au bout ? Pourrait-elle se rallier à Yannick Jadot, par exemple ? Lui, c'était bien rallié à Benoît Hamon en 2017 au nom du Rassemblement. Autour de Marc Fauvel et Célia Braclia de tenter la question ce matin sur France Info.
Je vais porter cette voix et ces propositions partout en France, auprès des Françaises et des Français, et ils verront aussi. Et puis ça suffit, quoi. La République, son visage, il est aussi féminin. Et les femmes, elles sont là pourquoi ? Pour dire je m'écarte. Voilà, quand vous entendez les leaders des Verts ou Yannick Jadot expliquer qu'ils tendent la main pour un accord, mais qu'il faut que ce soit derrière eux, ça s'appelle vraiment tendre la main, ça ?
C'est ce qui s'est passé il y a 5 ans dans l'autre sens.
Eh ben écoutez, peut-être que ça s'est passé dans l'autre sens, mais en tous les cas, là, ça ne se passera pas comme ça.
Question qui l'avait légèrement agacée. Vous voulez dire un mot, Gilbert Deray ?
Non, en écoutant, je me disais que j'ai l'âge de pouvoir citer un titre d'un livre d'Alexandre Adler, « J'ai vu mourir un monde ancien ». Et moi, j'ai vu 1981, François Mitterrand, et mourir un parti qu'on croyait éternel.
Le Parti socialiste. De nouvelles révélations ce soir dans le 5 sur 5 sur le tir mortel de l'acteur Alec Baldwin.
Oui, tir qui a fait deux victimes, je le rappelle. Aïlina Hutchins, 42 ans, directrice de la photographie de ce film, Rust, qui a été touché au ventre et qui a perdu la vie. Deuxième victime, le réalisateur du film, Joël Souza, qui a été, lui, touché à l'épaule, blessé. Il est sorti de l'hôpital et il s'est exprimé pour la première fois. Et on peut, grâce à ses déclarations à la police, visualiser un peu mieux comment la scène s'est déroulée. Alors la voici, on vous a fait une petite animation pour bien comprendre. C'était donc lors d'une répétition. Joël Souza et Aïlina Hutchins sont côte à côte derrière la caméra pour regarder l'angle de vue d'une scène. Au même moment, l'acteur Alec Baldwin a dégainé son arme et a pointé son revolver vers l'objectif de la caméra. Une arme que tout le monde pensait sûre puisque le terme « arme froide » a été entendu par plusieurs membres de l'équipe juste avant le tir. « Arme froide », cette indication, c'est un élément décisif pour les enquêteurs. Enquêteurs qui s'intéressent de près à deux personnes de l'équipe du tournage. L'assistant réalisateur, c'est lui qui a crié « arme froide » avant de donner l'arme à l'acteur Alec Baldwin. Un homme décrit comme expérimenté, mais qui est aussi la cible de nombreuses critiques. Ce qui a mis la puce à l'oreille des enquêteurs, c'est l'appel au service de secours au moment où le drame a eu lieu.
Bonanza Creek Ranch has had two people accidentally shot on a movie set by a prop gun we need help immediately. Okay. We're getting them out there already. Just stay on the phone with me. Okay. This fucking that yelled at me at lunch. He's supposed to check the guns. He's responsible.
Alors ce putain de la colère de cette femme vise donc ce Dave Halls et son témoignage coïncide avec un autre témoignage, une autre professionnelle du cinéma qui dénonce les méthodes de travail de ce même assistant réalisateur sur d'autres tournages.
Basically yelling at people that we need to get things done, ignoring people when they say that they need a minute to do something safely. Same things that happened on our show happened here but with much more devastating effects. And you can't help but think, did I do enough?
Pour sa défense, Dave Halls dit, lui, qu'il ne savait pas que l'arme était chargée à balles réelles. C'est là qu'on en vient à la deuxième personne qui intéresse les enquêteurs. C'est Anna Gutierrez Reed, 24 ans, l'armurière du film. C'est elle qui avait préparé donc l'arme à feu d'Alec Baldwin. Mais aujourd'hui, son inexpérience est pointée du doigt. Avant Rust, elle n'avait travaillé que sur un seul film. Et dans un podcast, elle parlait de la manière dont elle avait été formée. C'était seulement en septembre dernier.
Still learning. But yeah, Dad has taught me everything. But a lot of things, you know, I kind of just caught on by myself. I think loading blanks was like the scariest thing to me because I was like, oh, I don't know anything about it.
Bonsoir Philippe Gedge.
Bonsoir.
Journaliste spécialiste du cinéma pour le magazine Le Point. Merci de votre présence ce soir. Vous avez beaucoup enquêté sur cette affaire. C'est un traumatisme pour le cinéma aux États-Unis, mais aussi en France.
Oui, bah, c'est vrai que les armuriers du cinéma sont extrêmement sollicités sur beaucoup de productions en France, même si c'est en proportion beaucoup moindre qu'aux États-Unis. Mais par exemple, Christophe Maratier, qu'on a interviewé dans l'article que nous avons publié vendredi suite à ce drame, nous a... Et donc Christophe Maratier, qui est l'un des armuriers principaux du cinéma français, qui travaille beaucoup dans le cinéma et les séries télé, nous a expliqué que lui et ses confrères redoutaient, bien sûr...
Un tel accident.
Bien sûr, redoutaient. Alors, c'est leur hantise, bien sûr, mais ils estiment qu'il y a tellement de précautions, vraiment en France, le maniement d'armes à feu sur les plateaux de cinéma et de séries télé en France est encadré très étroitement par décret, et donc il y a plusieurs niveaux de sécurité qui rendent ce genre d'accident en France a priori vraiment impossible virtuellement. Ce qu'ils redoutaient, ce que je voulais dire surtout, c'était que ce qui s'est passé aux États-Unis déclenche une réflexion, une remise en cause globale de leur métier, qui pourtant est très encadré. Et d'ores et déjà, sur le tournage, sur un des prochains tournages sur lequel Christophe Maratier va travailler, qui est le prochain film d'Olivier Marchal, Overdose, donc il va tourner des séquences d'action sur ce film, hein, ça va commencer à peu près à la mi-novembre. Il a déjà anticipé qu'il allait falloir renforcer les processus de sécurité, faire des réunions avec les équipes techniques pour les rassurer, parce qu'il a reçu des coups de fil, des mails de gens d'ores et déjà inquiets de savoir qu'est-ce qui va, comment la sécurité est assurée sur ces scènes qui impliquent des armes à feu. Et je pense vraiment qu'on va avoir un avant et un après cette terrible tragédie.
L'arme utilisée par Alec Baldwin, elle était censée être froide. C'est ce qu'on a entendu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle avait... aucune balle ou des balles à blanc, ce qu'on appelle les balles à blanc ?
Alors, elle était censée ne contenir, quand on dit arme froide, ça veut dire que l'arme n'est censée contenir aucun projectile. Une balle à blanc, c'est une balle, d'ailleurs l'expression est un peu inappropriée parce qu'en fait c'est une munition à blanc, elle ne contient pas de balle à proprement parler, il n'y a pas de projectile, c'est un étui dans lequel il n'y a que de la poudre et l'amorce, et il y a un effet de petite flamme lorsque vous tirez. Et donc quand il disait, quand l'assistant réalisateur a dit arme blanche, ça veut dire qu'il n'y avait pas de projectile dans cette balle.
C'est alors, ce qu'on utilise aussi en France, les
armes. Alors, oui, en France, comme aux États-Unis, on utilise essentiellement de vraies armes sur ces plateaux, mais qui ne contiennent aucune balle réelle, aucune balle réelle, et ça, Christophe Maratier a insisté sur ce plan-là, ce sont que des balles à blanc, et donc ce qu'on appelle des balles à blanc ou des munitions à blanc, ce sont vraiment des munitions sans projectile, qui n'envoient
qui
aucun projectile,
blesser quand même.
Qui peuvent blesser si elles sont utilisées à bout portant, de façon très proche des corps, et elles peuvent blesser parce qu'il y a parfois des résidus de poudre incandescente qui sortent du canon. Et il peut avoir, si l'arme a mal été inspectée, et peut-être des restes, un résidu de projectile qui est resté, qui n'a pas été éjecté lors d'une précédente utilisation.
En quelques mots, Philippe Gedge, les conséquences sur la carrière d'Alec Baldwin, elles vont être considérables ? Même si c'est évidemment un accident, mais c'était un militant anti-NRA.
Oui, c'est une véritable c'est une tragédie personnelle.
Il faut préciser qu'il est producteur de ce film.
Voilà, alors c'est ce que j'allais dire. Là où ça risque d'être problématique pour lui, dans les jours et les semaines à venir, quand on va apprendre davantage, quand l'enquête va nous révéler davantage de choses, c'est que, en effet, il est coproducteur du film. Bon, il y a 7 maisons de production sur ce film, mais lui, via Eldorado, sa société, il est quand même l'un des producteurs. Et quand des responsabilités vont être mises à jour concrètement par la police locale, c'est évident que tout le monde va finir par se renvoyer la balle. Là, pour l'instant, le chef électricien du film pointe du doigt ce qu'il a appelé le non-professionnalisme des gens qui étaient supposés vérifier la sécurité des armes. Mais vous imaginez bien que ces gens-là, quand ils vont être, si jamais à un moment la police les met en cause concrètement, ils vont peut-être se retourner vers contre la production. Il y a un débat aux États-Unis sur l'explosion des tournages dus au streaming notamment, qui fait que des conditions de tournage et parfois les conditions de sécurité sur les tournages de ce genre de films ne sont pas toujours respectées, sont moins bien respectées qu'avant. Donc, affaire à suivre.
Merci beaucoup, Philippe Guettes, d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Merci, Elie Corchia. Merci, professeur Gilbert Deray. 1997, c'est son premier film en tant qu'interprète, avant de partager l'affiche avec Leonardo DiCaprio dans La Plage. 2007, le plus jeune réalisateur français a décroché un César pour Ne le dis à personne. 2017, la naissance de sa fille Louise, le deuxième enfant du couple qu'il forme avec l'actrice Marion Cotillard. Depuis 2007, le chiffre 7 porte donc bonheur à Guillaume Canet, à tel point qu'il l'a tatoué au creux de son poignet droit. On n'est pas en 2027, mais mercredi 27 octobre sort au cinéma le 7e film que réalisateur cet acteur doué, beau gosse, bien dans sa peau, auquel tout réussit, pas tant que ça.
T'as pas besoin de partir sur une île pour t'isoler, ça fait 7 ans qu'on vit avec un fantôme.
Mais tu crois que t'as rien à te reprocher, toi? Ça fait des années que tu me balances à la gueule tout ce que tu détestes de toi-même.
Oui, mais on parle de toi, là. Accepte d'être égocentrique jusqu'au bout. Tu veux qu'on parle de moi? De ce que je vis? Ou plutôt de ce que je vis plus? Il a raison, j'ai arrêté la musique pour toi.
Vous arrêtez avec ça, hein?
Et tous les jours, doucement, tu me limites. Tu me contrains. Tu m'étouffes. T'aurais pu me faire rêver un peu. M'élever. Que je vois commencer là-haut. Que je découvre autre chose avant de crever.
Bonsoir Laetitia Casta, Guillaume Canet, bonsoir à tous les deux. On est ravis de vous accueillir à l'occasion de lui, votre 7e film donc, avec 2 Canets pour le prix d'un, voire 3 d'ailleurs à certains moments, puisque vous affrontez votre alter ego, ce connard, je vous cite, qui vous tire vers le bas et qui est face à un dilemme, choisir entre sa fidèle épouse et sa maîtresse incarnée par Laetitia Casta. Ça donne un film original, cocasse, drôle, émouvant. Je me demandais s'il était là, le connard. Il était invité ce soir ou pas?
Il est toujours là. Il est là comme votre connasse à vous.
Mais
bien sûr. Mais je veux dire qu'on a tous cette petite, cette petite voix, cette petite présence des fois qui fait que
qui se manifeste
on est jaloux,
comment
que on a une petite névrose, que on est insatisfait par moment sur certaines choses. Enfin, tout le monde a déjà eu ce dilemme de truc de choisir. C'est voilà, son petit démon, quoi. Et voilà, et ça m'intéressait de parler de lui. Donc lui, c'est pas moi, mais
c'est lui, quoi.
Ce double, en fait, qui peut nous rendre la vie plus difficile par moment. Ouais.
Vous avez un double ou pas, Laetitia?
Oui.
Vous avez c'est une vraie connasse ou c'est une gentille connasse ou c'est
pire, c'est un démon.
C'est vrai? Ne regardez pas comme
c'est elle qui vient de vous le dire.
Un démon. Bon, en tout cas, c'est formidable parce que ce film, il vous donne l'occasion, chère Laetitia, de dire des choses qu'on vous oblige à dire, puisque vous arrivez dans les pensées de Guillaume Canet, enfin de ce compositeur en charge, en panne d'aspiration, et il vous fait dire des choses absolument dingues que vous avez pris un plaisir fou à dire.
Oui, c'est pour, en tant que partition d'actrice, c'est génial à faire, parce que c'est assez musical. Hein. Puis avec Virginie Efira, c'était marrant, l'échange était vraiment sympa, ça faisait des scènes.
Voilà, moins ça ira dans ton cul, moins ça ira dans ta tête, c'est dans ce sens-là, pas dans l'autre. Autrement dit, il faut être épanoui sexuellement pour aller bien dans sa tête, c'est le genre de phrase que
vous prononcez.
Exactement.
Mais il y en a plein.
Mais elles sont très solidaires, les femmes.
Exactement, et c'est assez joli.
On ne tombe pas dans le cliché de la femme et de la maîtresse.
Exactement.
Qui sont en fight, au contraire. Elles sont solidaires.
Solidaires. On vous retrouve dans un instant pour parler longuement de lui qui sort le 27 octobre. L'œil de Pierre, Le Vu, la story média de Mohamed, et le dîner de C'est à vous avec Romain Grosjean. A tout de suite.